France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Brendan Kemet, bonjour.
Bonjour Jacques.
Vous publiez L'évasion du siècle, c'est un récit sur la vie du braqueur Redouane Faïd, sur son enfance, sur ses casses, sur la mort de la policière Aurélie Fouquet. Mais ce qu'on va examiner ici, ce sont surtout les deux derniers épisodes de sa carrière, peut-être les plus spectaculaires, avec ses évasions, sur lesquelles d'ailleurs tout n'a pas encore été dit. Alors on va partir de 2012, il est à Fresnes, et on va le transférer. Alors qu'est-ce qu'il fait à Fresnes et pourquoi on le transfère à Lille?
Alors Redouane Faïd est très actif dans cette période-là, comme souvent en détention en fait, il observe, il se rapproche de surveillants, il se rapproche de détenus, il y a un certain nombre de rapports qui sont faits et tous signalent en fait qu'il prépare quelque chose. Il est urgent alors de le transférer parce qu'à Fresnes, il est tout à fait à l'aise, il connaît les différentes divisions, il connaît certains détenus et il connaît aussi les surveillants qui l'approchent en fait et à qui il demande des petits services.
Alors, il va donc à Lille et là, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il réussit à s'échapper seul avec un pistolet automatique qui apparaît, on ne sait pas pourquoi, et des explosifs qui lui permettent de faire sauter les portes les unes après les autres. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait d'où vient cette arme et d'où viennent ces explosifs?
Alors, on ne sait pas du tout d'où viennent l'arme et les explosifs. Très souvent, c'était arrivé déjà avec Antonio Ferrara, il y a un maton pourri, un ripoux. Mais lui, généralement, est un peu au-dessus de la mêlée. Il ne va pas s'impliquer directement. Il va trouver, en fait, parmi...
Il va convaincre un collègue de le faire à
exactement.
Sa place.
Exactement. Et donc, ce qui rend, en fait, extrêmement difficile pour les enquêteurs, l'identification de ce surveillant.
Et vous écrivez que tout ça a pourri l'ambiance dans la prison.
Ah bah oui, imaginez que vous êtes surveillant de prison à Lille Séquedin et que vous découvrez qu'en fait la personne qui vous a mis en danger en faisant rentrer ses armes, il y a eu quand même 7 explosions. Enfin, on est à l'affaire à de l'explosif militaire. C'est un de vos collègues en fait. Alors qui, voilà, depuis lors, ils ont essayé de comprendre qui ça pouvait être. Alors ils ont leurs idées, mais imaginez un peu l'ambiance.
Une idée n'est pas une preuve. Alors donc, il est en cavale, Redouane Faïd, on finit par le reprendre à Ponto Combo, et il va atterrir à la prison de Réau. Et là, on arrive en 2018 avec cette nouvelle évasion spectaculaire absolument incroyable. Cette fois-ci, c'est l'hélicoptère qui se pose dans la cour d'honneur.
Ce qui est étonnant, c'est de voir que c'est un remake, en fait, cette évasion, d'une évasion qui a eu lieu en 2001 à Draguignan et qui a été réalisée, on le dit dans le livre, par quelqu'un que connaît bien Redouane Faïd, qui l'a rencontré en détention. C'est un caïd du sud de la France, qui consiste en fait à faire venir un hélicoptère, à l'amener à l'endroit, le point faible de la prison que Faïd a repéré, c'est-à-dire hors de la vue des miradors.
Alors, vous écrivez à la fois que le pilote a été malmené par les malfaiteurs qui ont organisé ça, et en même temps, on se pose des questions, parce qu'on découvre aussi que Redouane Faïd reçoit des courriers de la belle-fille du pilote en prison. Et donc, on se demande s'il n'y a pas quand même un lien entre Redouane Faïd et effectivement l'entourage de ce pilote.
Les enquêteurs étaient abasourdis de découvrir dans le courrier de Redouane Faïd des lettres un peu anciennes, parce qu'elles remontaient à 2 ans plus tôt, entre Redouane et une jeune femme, en fait, qui s'avère être effectivement la belle-fille du pilote. Alors, il y a une relation civile qui à un moment s'interrompt, on ne sait pas pourquoi, mais à l'heure actuelle, personne n'a pu démontrer qu'il y avait un lien, et preuve en est que le commando qui a sorti, entre guillemets, Redouane Faïd et qui a préparé son évasion, s'est adressé à plusieurs pilotes auparavant. Il y a eu tout un démarchage dans les mois précédents, et donc il n'arrive qu'en bout de course, finalement, au pilote qui est là le jour de l'évasion.
Oui, on va rappeler que le pilote a été entendu, mais qu'aucune charge effectivement n'a été retenue contre lui. Alors vous évoquez le cas d'un proche de Redouane Faïd, dont on va rappeler qu'il a évidemment été arrêté, il était déguisé en burqa, enfin bon, maintenant il est à nouveau évidemment incarcéré. Vous évoquez quand même le cas de ce proche donc de Redouane Faïd, et ça se passe en 2011, c'est à la maison d'arrêt de Douai, et vous racontez qu'on a mis des micros dans sa cellule. Est-ce que ça arrive souvent qu'on mette des micros dans les cellules des détenus pour avoir des informations?
Alors les micros, c'est quelque chose qui est permis depuis la loi Perben 2, donc ça remonte à plus de 10 ans. C'est réservé quand même, il faut le dire, essentiellement au grand banditisme et au terrorisme, mais c'est quelque chose maintenant qui est assez fréquent. C'était surtout dans les parloirs, à vrai dire, que ça se faisait, que ça se pratiquait énormément. Sur les cellules, c'est plus inédit. C'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs ce suspecté proche de Redouane Faïd d'ailleurs a été surpris, quoi.
Alors aujourd'hui, il est incarcéré dans des conditions qui sont des conditions drastiques. Après toutes ces évasions, on fait quand même très attention. Il giaphone au parloir, il est entravé dès qu'il sort. Maintenant, on ne prend plus aucun risque.
effectivement, il est dans des conditions terribles. Il voit à peine la lumière du jour puisque il est avec une toute petite fenêtre avec qui est doublement grillagée de part et d'autre. Donc, effectivement, c'est très dur pour lui.
Et il y aurait un conflit entre les surveillants et le juge qui surveille sa détention, puisque le juge lui-même aurait demandé à ce qu'il ne soit plus entravé lorsqu'il sort. Les surveillants continuent de l'entraver.
Alors c'est la guerre entre la justice d'un côté et puis les services pénitentiaires. Les services pénitentiaires estiment qu'il est sous leur garde, que c'est eux qui prennent toutes les mesures nécessaires à ce qu'il ne s'évade plus. Ils s'opposent effectivement au juge et le juge est assez démuni en fait.
Ils considèrent qu'il y va aussi de leur sécurité, ils ne veulent pas prendre le moindre risque. Alors, vous dévoilez aussi, et on va finir avec ça, une info qui est assez étonnante. On a beaucoup parlé dans l'actualité récemment de la société Velours, parce que c'est une société de sécurité notamment qui a travaillé avec Alexandre Benalla. Et vous expliquez qu'il y a un rapport entre Redouane Faïd et cette société Velours, et même qu'à un moment, on lui aurait proposé de travailler comme conseiller pour Velours.
Alors, il faut remonter à 10 ans à peu près en arrière. Redouane Faïd sort de prison et à ce moment-là, il veut se reconvertir soit dans le cinéma, soit plus original encore dans le conseil finalement aux entreprises de sécurité, aux entreprises de l'X. Et donc, il est mis en relation avec une boîte qui vient de se créer, qui s'appelle Velours, qui a été créée par deux policiers spécialisés dans le banditisme. Alors aujourd'hui, le responsable de Velours dit il ne s'est rien passé. Hein. Effectivement, il n'y a eu aucun écrit. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des relations suivies. Il y a eu une écoute où Redouane Faïd est dans les locaux de la société Velours. Et un des condamnés dans son affaire a également le numéro de téléphone de Velours dans son répertoire. Bon, c'est vrai qu'à cette époque, Velours, ce n'est pas encore les contrats internationaux avec la Russie. C'est une boîte de sécurité plus classique qui utilise notamment des gros bras à la sortie d'événements, vous voyez. Mais c'est effectivement...
Non, et puis à l'époque, on imaginait que Redouane Faïd s'était rangé et que quelque part, il avait une expertise effectivement sur les braquages qui pouvait servir à améliorer la sécurité.
C'était son idée, c'était de se reconvertir dans le conseil contre les braquages. C'était son grand truc, effectivement. Mais ce qui est... un peu embarrassant pour Velours, c'est qu'à la même époque, il est dans une association de malfaiteurs. Il est avec des gens qui, plus tard, ont été condamnés avec lui dans l'affaire de Villiers-sur-Marne.
Bien, merci Brendan Kemet. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, puisque votre livre balaye vraiment l'ensemble du parcours de Redouane Faïd, donc je rappelle qu'il s'intitule « L'évasion du siècle » et je précise qu'il est édité chez Plon.